Bienvenue pour le 17e épisode de la saison 3 de Vue du Banc, un épisode spécial Coupes Européennes, puisque Ligue Europa et Ligue des Champions sont terminés pour ce qui est de la première phase. Donc on attend un tirage au sort qui interviendra dans quelques jours après l'enregistrement de ce podcast. On va, même si on va se projeter un petit peu sur la suite, on va d'abord faire un bilan de cette première phase. Comme d'habitude, nous sommes à 3, mes deux compères, Florent Tonuti de Chronique Tactique. Salut Florent.
Salut.
Et Raphaël Cosmidis de l'équipe.fr et de pas mal d'autres choses. Salut Raphaël. Ça va ?
Écoute, très bien.
Tant mieux. Alors, messieurs, on va peut-être commencer d'abord par revenir un petit peu sur un match en particulier et pas sur toute la phase de poule, mais peut-être que ce match-là symbolise aussi quelque chose à l'échelle de ce qui s'est passé sur les 6 matchs du groupe B. C'est le Paris-Bayern, pour être précis. Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là par rapport au match aller ? Est-ce que c'est un échec d'un match ou alors est-ce que ça traduit des problèmes un petit peu plus profonds ? Et qu'est-ce que ça dit aussi du parcours potentiel de Paris sur, voilà, ça, j'ai beaucoup vu des remises en question des ambitions parisiennes après ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou alors est-ce qu'il ne faut pas tirer trop de conclusions de ce qui avait un enjeu mais quand même relativement limité finalement ?
Ouais, alors il y a cette part-là qui est difficile à évaluer parce qu'en effet, quand tu es sûr d'être premier du groupe... Ton investissement peut être plus léger. Alors c'est aussi le problème du coach d'arriver à motiver ses joueurs quelles que soient les circonstances. Mais ce qui avait marché lors du match aller contre le Bayern pour le PSG, c'était de pas forcément d'avoir le ballon très haut et d'évoluer très haut, mais de laisser la possession aux Munichois et de les forcer à centrer. Il y avait eu le Kimmich avait touché un nombre incroyable de ballons et ensuite le PSG avait été très fort dans la défense dans sa propre surface, ce qui n'a pas été le cas sur ce match. Et la différence sur ce match retour là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à empêcher le Bayern d'aller à l'intérieur du jeu. Alors il y a eu les problèmes collectifs et tactiques de pas mal de joueurs, de l'orientation d'Mbappé, de la hauteur de Verratti et Rabiot qui étaient souvent à plat et de Draxler qui n'était pas forcément tactiquement au point sur ce rôle-là et cette fonction-là dans un milieu à 3. Donc tu as un joueur comme Hummels qui s'est régalé, qui a trouvé beaucoup de joueurs à l'intérieur, qui a trouvé Ribéry, qui a trouvé Rames, qui a trouvé parfois Lewandowski dos au jeu. Donc tous ces problèmes-là, on ne les avait pas vus au match aller, on les a vus au match retour, et c'est à partir de là que les problèmes parisiens ont eu lieu, parce qu'ensuite, quand tu te retrouvais sur du Ribéry ou du Rames face au jeu, bah, tu n'étais pas au niveau en termes de vivacité et de technique pour rivaliser avec ces joueurs-là, et tu arrivais sur des joueurs lancés, sur un Alaba et un Rames qui créaient des 2-1, Alaba et Ribéry qui créaient des 2-1 contre Daniel Vess, et c'est aussi pour ça qu'il a passé une soirée aussi compliquée. Donc tactiquement, le plan parisien, alors c'est difficile de savoir si les consignes n'étaient pas bonnes ou si elles n'ont pas été appliquées, ou si les consignes n'étaient pas pertinentes, parce que comme tu l'as dit, l'enjeu était moindre pour le Paris Saint-Germain, et dans ces cas-là, on a vu déjà que l'attaque là, à 3 ne participait pas forcément défensivement. On l'avait vu ces dernières semaines aussi, il y a eu des matchs où ils se sont remis au boulot et c'était beaucoup mieux. Donc c'est difficile quand tu n'es pas dans le vestiaire de savoir exactement quelle est la cause et la conséquence des problèmes du PSG aujourd'hui, mais en tout cas, tactiquement, ce match n'était pas au point.
Florent, justement, t'en penses quoi de la prestation parisienne ? Est-ce que, par exemple, on peut partir du principe que Paris a joué à peu près de la même manière, en tout cas en termes de niveau de jeu, et que c'est simplement le changement de coach du Bayern, passé de Ancelotti à Hinkes, qui a changé le problème posé et que Paris n'a pas su y répondre ? Ou alors, malgré tout, Paris a bien moins bien joué qu'au match aller ?
Paris a bien moins joué. Après, il y a le scénario aussi des deux matchs, parce qu'au match aller, Paris ouvre le score très vite, à la deuxième minute, il me semble, sur la première occasion du match, etc. Donc ça aussi, ça a changé pas mal de choses. Là, cette fois, c'est le Bayern qui marque très vite sur cette deuxième occasion. Mais c'est vrai qu'en termes... Alors, Raphaël a abordé quelques problèmes tactiques. C'est vrai que le PSG, sur la première mi-temps, a oscillé entre un 4-3-3 et un 4-4-2. Enfin, a démarré en 4-4-2, et puis après, avec Neymar et Cavani devant. Et puis après, on a basculé avec un 4-3-3, parce que du coup, tu avais Neymar qui retrouvait ses habitudes d'ailier et qui allait cadrer Kimmich à gauche. Alors que normalement, en 4-4-2, c'est à Draxler de le faire. Du coup, ça a laissé Cavani seul dans l'axe et ça ouvrait un peu l'intérieur à un joueur comme Hummels, comme il l'a dit, qui s'est vraiment régalé. Et en plus, ça mettait Rabiot en porte-à-faux parce que si Cavani sortait sur les défenseurs, il fallait un mec pour prendre Rudy dans le rond central. Et dans ce cas-là, c'est Rabiot qui sortait plus haut et du coup, tu avais Verratti et Draxler qui étaient complètement laissés seuls avec beaucoup d'espace à couvrir et ils ne sont pas faits pour ça. Mais... Au-delà des problèmes tactiques, il y avait quand même aussi une grosse limite au niveau de l'engagement. Quand tu vois que les deux premiers tirs du Bayern, c'est des actions où les Parisiens laissent, par exemple, la première séquence, c'est ils laissent Coman jouer un contre un avec Kurzawa, c'est-à-dire il n'y a personne qui vient l'aider. Sauf au dernier moment, quand Coman rentre à l'intérieur et frappe, il y a Rabiot qui va essayer de contrer la frappe. Mais voilà, on laisse l'action se dérouler. Et puis tu as le premier but, la deuxième action, avec le but de Lewandowski à la fin, où c'est un long ballon de Ulreich qui dégage son camp. C'est la tête de Lewandowski, ou la tête de Coman, je sais plus, il y a un duel aérien qui traîne. Et ensuite, sur le deuxième ballon, bah, tu as deux ou trois mecs du Bayern qui sont là. Rabiot qui n'arrive pas à couper l'action. Et un 5 contre 5 derrière, entre l'attaque et la défense. Un 5 contre 5 qui devient 5 contre 6. Parce que Alaba monte comme une flèche et crée le surnombre sur le côté. Et derrière, bon, bah, ils sont sanctionnés logiquement. Et voilà, de vrais problèmes d'engagement. Moi, il y a une stat, c'est un peu con de s'en tenir à ça, mais. Quand c'est aussi peu, les chiffres en disent quand même assez long. Sur les 20 premières minutes de jeu, le PSG ne fait qu'un seul tacle sur l'ensemble des 20 premières minutes. C'est quand même assez peu. Voilà.
Bah, de toute façon, tu le voyais, t'en as parlé sur Hummels, le fait qu'il soit très rarement pressé par un des adversaires. Alors, il y a Cavani qui couvrait tout le terrain, mais il n'y avait même pas un des relayeurs qui sortait sur lui, souvent. Et
Ouais.
c'est aussi à partir de là qu'il a pu trouver toutes ses passes à l'intérieur. Et même
Après.
quand il était pressé, c'était tellement faible qu'en fait, il arrivait à sortir balle au pied, à fixer et à trouver un partenaire.
Après, par rapport à Hummels, la difficulté, c'est que quand il passait ce premier rideau, quand il passait donc Cavani, ce Cavani était laissé seul, il arrive schématiquement, il arrive dans la zone de Verratti. Et le problème, c'est que Verratti avait beaucoup de mal déjà à gérer lui-même les déplacements de Ribéry et de James,
Ouais, c'était tout le temps dans sa zone, ouais.
qui était tout le temps dans sa zone et qui, en termes de vivacité, lui ont fait très mal,
Ah,
quoi,
lui, on
sur
lui
le
fait très.
match.
Ouais, et c'est là que le profil de ton numéro 6 pose question. Où les gens se sont ensuite demandé s'il fallait pas justement un numéro 6 avec plus de volume à la Casemiro, un peu, parce que c'est comme ça que fait le Real en fait. C'est que dès qu'il y a un espace abandonné, bah, le mec est capable de courir tellement de terrain latéralement et rapidement que les erreurs sont moins rapidement vues que comment lors du PSG, lors d'un match du PSG.
Et justement, je vois une question de Hugo Monnier. On salue
Oh là
Hugo,
là,
qui
le
nous a
Hugo!
demandé sur Twitter quel numéro 6 et quel type de numéro 6 pour le PSG. Faut-il une pure sentinelle? Donc tu parlais de Casemiro, on pourrait aussi mentionner des N'Golo Kanté, etc. Ou alors un joueur plus de type Mota, donc plus relanceur.
Et pourquoi pas?
Après, je pense que le choix, Flo, aussi, c'est est-ce que tu joues pas plus avec le ballon que ne le fait le PSG dans les gros matchs depuis quelques mois maintenant?
Oui, mais.
Vu le milieu. Parce que depuis dans les gros matchs, que ce soit à l'aller ou au retour, là, contre le Bayern, ils ont laissé le ballon volontiers à l'adversaire.
Là, sur le retour, c'est du 52-48 pour Paris à la fin. Mais
Ouais, c'est peut-être le fait d'être mené
oui, voilà,
qui.
évidemment, c'est ça qui
Mais le
joue.
point de départ du match, tu laisses le ballon, quoi.
Mais pour revenir à la question de ce cher Hugo, quand tu vois aujourd'hui qu'en numéro 6 sur le marché, t'as Nzonzi qui va quitter Séville cet hiver, bon, mais voilà, ce serait une sortie évidente pour Paris. D'autant plus qu'il a cette qualité d'avoir pu se fondre dans un jeu de possession avec Sampaoli et d'avoir aussi cette base qu'il a construite, on va dire, en Angleterre et qu'il a toujours, c'est cette capacité à couvrir énormément de distance et à être très efficace dans les duels, en plus d'être très bon dans les airs, ce qui peut servir aussi dans les deux surfaces. Donc c'est sûr qu'un Nzonzi se poserait comme une recrue très, très efficace par rapport aux besoins du PSG à ce poste aujourd'hui, sachant qu'il y a encore Mota, et tu auras toujours peut-être la possibilité d'aller chercher plus tard un 6 avec un profil peut-être plus créatif, même si, comme je le disais, Nzonzi s'en sortait pas trop mal avec le Séville de Sampaoli. Mais après, la grande difficulté, c'est que, pour s'éloigner un peu du terrain, c'est est-ce que Paris, qui doit déjà vendre beaucoup, peut relâcher 30 millions sur cet hiver
Ouais,
pour faire venir Nzonzi? C'est là
c'est.
que c'est ça qui me paraît compliqué, et c'est ça qui va faire, à mon avis, qu'ils vont passer à côté de cette opportunité et qu'il faudra qu'ils trouvent autre chose l'été prochain.
Mais le retour de Mota dans ces matchs-là, quoi qu'on pense de Rabiot à ce poste-là ou de la qualité de Draxler, pardon, c'est que l'intelligence de Mota, au moins dans le placement et dans le fait d'aller cadrer ou pas, contrairement à Rabiot qui est parfois un peu foufou, apportera plus au PSG que ne le fait le milieu à 3 pour l'instant. À chaque fois qu'on annonce la fin de Mota ou le déclin de Mota, il refait un gros match à chaque fois en Ligue des Champions pour prouver qu'à 35, 36 ans, peu importe, quand tu as cette qualité-là. Et c'était pareil pour Thiago à l'Atlético il y a quelques années. Sa simple présence rend le PSG plus intelligent et plus fort tactiquement. Donc je suis pressé de voir comment il va revenir.
Bon, un petit mot sur le Bayern. Tiens, Raphaël, tant que tu as la parole, j'ai une question de Amine Lamela qui nous
Oui.
demande, concernant Tolisso, vous ne trouvez pas qu'il rappelle son coéquipier Vidal jeune, ce genre de milieu qui sait tout bien faire, défendre, bien passer la balle et marquer des buts? Ce qui est amusant, c'est qu'on en a parlé entre
Ouais,
nous
c'est vrai.
avant
Avec pendant le
de
match,
recevoir cette question.
avec une plus faible consommation d'alcool,
Ouais,
peut-être. Enfin,
bon,
j'espère pour la carrière,
c'est un petit pléonasme.
pour la carrière de Tolisso. Mais c'est vrai qu'il a encore fait. Et j'ai l'impression qu'on parle de Tolisso chaque semaine tellement il est bon depuis quelques mois. Mais il a encore fait un super match au-delà de sa qualité dans les deux surfaces et surtout dans la surface adverse où là il marque deux buts parce qu'il arrive à se projeter. De manière très verticale, même quand c'est des contre-attaques, c'est sa performance en deuxième mi-temps avec le ballon et dans l'organisation du jeu qui m'a impressionné parce qu'il a commencé à enchaîner du jeu long pour faire tourner le PSG d'un côté à l'autre, pour trouver Kimmich souvent côté droit. Et là, tu as vu toute la qualité d'un joueur qui a un relâchement dans son geste technique pour changer le jeu qui est assez impressionnant. Accompagné de Rudy au milieu, c'était très dur pour le PSG de récupérer le ballon et d'avoir des séquences de possession longues parce que tu as deux mecs qui gèrent très bien le tempo et qui techniquement sont capables de réaliser à peu près toutes les passes possibles. Donc là, c'est vrai qu'on voit un Tolisso. Bah, c'est un champ qu'on avait eu un peu la discussion d'ailleurs en tout début de saison, quand il y avait eu le recrutement de Tolisso, où on avait évoqué un peu ce milieu à trois éventuel, Thiago Alcantara, Vidal, Tolisso, où les trois pouvaient remplir tous les rôles. Et c'était un peu un fantasme de voir ça avec Ancelotti, parce que lui savait justement mélanger ses talents comme il avait fait à Milan. Bon, ça n'a pas marché. Mais avec Henkes qui avait créé le milieu à deux, Schweinsteiger, Kroos, et le troisième, c'était Luis Gustavo à l'époque, je crois. Bah justement, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le long terme, parce qu'il a encore réalisé une performance qui le place largement titulaire dans cette équipe.
Florent, je te sens chaud sur le sujet, donc on en avait parlé à deux pendant le match. Tolisso va prendre la place de Vidal ou alors va jouer avec Vidal pour peut-être apporter quand même deux, trois petites choses un petit peu différentes.
Bah, il est parti pour, en tout cas, Vidal est quand même sur la pente descendante depuis quelques temps. Il a 30 ans, je crois, ou 31. Bon, évidemment,
Ouais,
à
30 ans, ouais.
30-31 ans, normalement, t'es pas fini. Mais quant a priori, l'hygiène de vie qu'il a, je pense que c'est l'âge où ça commence à devenir compliqué, quoi. Et c'est sûr qu'un Tolisso qui, lui, par contre, arrive à maturité, Tolisso est de 94, il me semble, il a 23 ou 24, ou
23, je
93, je
crois.
sais plus. Et voilà, bah c'est la suite logique d'un grand joueur qui est en train de baisser petit à petit et d'un jeune qui est en train de prendre sa place.
Après,
Voilà.
tu vois, Vidal est quand même déjà à 4 buts et 2 passes décisives en 733 minutes de Bundesliga.
Oui.
Il est pas non plus, tu vois, il est encore là et c'est pour ça que ça va être un vrai défi pour Tolisso.
C'est un vrai défi, mais à terme, enfin à
Oui,
terme,
bien
voilà,
sûr.
il va y avoir une passation qui va se faire entre les deux. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir au mois de février qui sera titulaire sur le huitième de finale, parce que c'est là qu'on verra qui est passé devant qui dans la hiérarchie. Après, Raph en parlait un petit peu aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la perf de Rudy en 6, mais enfin. Même plus que 6, parce que parfois il jouait vraiment sur la même ligne de manière à offrir 5 joueurs, enfin une ligne de 5 pour vraiment couper des lignes de passe, etc. Et je l'ai trouvé très, très intéressant, très bon, et qui s'est alterné en effet aussi jeu court et jeu long. Et j'ai trouvé les deux très complémentaires, et ça m'a. Je me dis que ce sont deux joueurs qui pourraient à terme être les Schweinsteiger et Javi Martinez de l'époque, avec. Quelque chose en plus, c'est la projection que n'avait pas Javi Martinez et peut-être qu'à Tolisso. Après, c'est vrai que Schweinsteiger l'avait aussi, mais voilà, ça peut être dans le Bayern de Heynckes. Après, c'est vrai que ça sera un Bayern à court terme, puisque Heynckes ne va faire qu'une saison, logiquement, et le Bayern trouvera quelqu'un d'autre l'été prochain, donc il faudra à nouveau refaire le boulot pour convaincre l'entraîneur. Mais tu as une vraie base, et de toute façon, en élargissant, en prenant ce milieu-là, mais en élargissant aussi à toute l'équipe, le Bayern a fait une performance face au PSG qui, on va dire, remet à jour son statut par rapport au match au 3-0 qu'on avait vu à l'aller, où on avait vu une équipe en perdition et qui a peut-être aussi sans doute lâché son coach à ce moment-là. Là, on a revu une équipe sérieuse et une équipe qui sera au rendez-vous du printemps, ça me paraît assez évident, quoi.
Oui, de toute façon, ils étaient déjà au rendez-vous du printemps, le printemps dernier avec Ancelotti. Il y avait eu quand même des circonstances particulières lors la double confrontation face au Real où l'arbitrage avait été particulièrement, alors, contre le Bayern, malheureusement. Il y avait, je crois que c'était Vidal qui avait pris un rouge d'ailleurs
Ouais,
assez.
Vidal prend un
Assez...
rouge. Bah, le
Voilà.
Bayern finit à 10, je crois, les deux matchs, hein, il me
Ouais,
semble.
alors que quand ils étaient à 11 contre 11, ils dominaient et ils avaient plus d'explicit goals, je crois, à 11 contre 11 que le Real. Donc tu vois, on a vite oublié cette période, un peu comme on a vite oublié la deuxième saison d'Ancelotti au Real Madrid quand il arrive en demi-finale de Ligue des Champions et qu'il pratique un super jeu. Mais c'est vrai que. On a un peu effacé le Bayern des grosses équipes depuis cette élimination, alors qu'ils ont toujours l'effectif et la qualité pour être aussi forts que les autres.
Raphaël, justement, on n'a pas encore parlé vraiment du Bayern version Heinkes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent dans cette équipe? Moi, par exemple, il y a une question, mais qui est un peu, je vais pas dire un fil rouge de ma vie, parce qu'on va pas s'enflammer, mais c'est une question que je me pose à chaque fois. C'est par exemple l'utilisation d'un Kingsley Coman, qui est un joueur
Ouais.
relativement limité sur le nombre de ses qualités, par exemple, comparé à Vidal ou Tolisso, qui savent pas tout faire, mais qui fait ce qu'il fait très bien, en tout cas la vitesse de course. Il commence à avoir la capacité à faire les bons choix, à bien centrer en retrait, à faire le petit dribble sur le premier pas. Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent très intéressantes dans ce Bayern-là pour aller au bout, en sachant, comme tu l'as dit, que pour gagner les compétitions européennes, quand tu as l'effectif pour, il faut pas grand-chose pour que ça bascule du bon côté. Et qu'est-ce qui te semble encore améliorable pour que le Bayern puisse être la terreur du
Bah
printemps?
déjà, quand tu vois la performance de Ribéry,
Ouais.
lui qui est assez. C'est un cyborg, hein, parce qu'il est blessé 150 000 fois et il revient à chaque fois avec une explosivité légendaire, bah un peu comme Arjen Robben qui se blesse tout le temps mais qui revient avec une explosivité légendaire. Donc bravo au staff du médical du Bayern. Mais quand
Avec tout ce que
les.
ça comporte de
Voilà.
sous-entendu sur le retour du docteur
Incroyable.
Müller-Wohlfahrt.
Mais quand les deux seront de retour, c'est assez simple, tu auras quand même une paire d'ailiers qui n'a pas été égalée en Europe depuis pas mal d'années et qui à chaque fois était à la source des performances du Bayern au-dessus du lot. Donc c'est vrai que Kingsley Coman est très bon quand on le laisse en un contre un, et c'était le souci qu'il avait rencontré en équipe de France et lors d'autres contextes, c'est que quand il est en un contre deux ou quand l'adversaire crée un contexte où il doit faire des choix plus complexes que est-ce que je vais dribbler ou est-ce que je vais dribbler, parce que c'est souvent ça, il a du mal à créer autre chose. Là, il était dans la facilité parce qu'il a été en un contre un contre Kurzawa puis contre Daniel Vess. Et en termes de vivacité, bah, il y a de toute façon très peu de joueurs qui peuvent rivaliser avec lui. Donc dans ces contextes-là, il est très fort. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le Bayern de Heinkes, c'est déjà le recentrage de James Rodriguez et surtout ce rôle-là qui lui est dévolu et qui laisse beaucoup de liberté. Et on a revu un Rames, celui qu'on avait vu lors de ses premiers pas au Real et celui qu'on avait vu à Monaco et au Mondial 2014. Ça commence à dater, mais c'est de retrouver ce joueur, c'est aussi se rappeler que c'est un joueur de classe mondiale qui avait réalisé des performances exceptionnelles avec le Real au début, notamment pour battre l'Atlético, qui était un peu la bête noire du Real. Donc il y a aussi le retour au niveau de ces joueurs-là, et puis il y a la performance de Hummels qui est hors norme parce qu'il a une qualité de pied qui si tu, quand tu vois la chute, un peu le déclin de Bonucci en ce moment, c'est peut-être lui aujourd'hui le meilleur relanceur au monde.
Ouais, et puis
Oui,
Hummels.
et c'est un vrai défenseur, contrairement par exemple à Bartra qui fait toujours des passes décisives à
oui,
Dortmund, mais qui ne sait pas défendre.
ouais. Et Hummels qui lâche en deuxième mi-temps un extérieur du pied en profondeur là pour. Je crois
oui,
que
non,
c'est
mais ça,
Tolisso. Une
c'est
passe
vraiment.
assez incroyable.
Il en fait toujours une par match quand il
Ouais.
est chaud et c'est toujours. Enfin, tu comprends pas. C'est un peu du Modric à son extérieur du pied d'ailleurs.
Et après, c'est vrai que pour revenir sur les différents points qu'a abordé Raphaël, il y a le. Sur le cas de Coman, il a aussi quelque chose qui est parfait pour le football selon Heynckes, c'est que bah, tu lui demandes de courir, il va courir. Défensivement, il fait beaucoup d'efforts, il est
Non, ça se
capable d'aller
reconnaît, ça.
presser, etc. Et ça pour Heynckes, quand on se souvient la machine à presser qu'il avait construite en 2013 pour amener l'équipe jusqu'à la Ligue des Champions, c'était 2013, hein, je crois, oui, il me
Ouais,
semble.
ouais.
Coman va forcément lui servir sur certains matchs, sur ce volet-là, et il a encore fait les efforts défensifs qu'il fallait sur son côté, même si c'était pas les plus, on va dire, les plus importants, puisque c'était surtout dans l'axe. Là, tu vois, tu parlais de Rames. Alors, il a eu quelques oublis, quelques déconnexions qui auraient pu coûter cher, notamment l'action avec le long 1-2 entre Neymar et Mbappé en première mi-temps. Mais voir que Heynckes tente de faire de Rames, en effet, en phase offensive, un joueur très libre, mais en phase défensive, un joueur qui va devoir travailler dans la ligne de 3 au milieu, dans l'axe, c'est assez ambitieux parce que comme je l'ai dit, il a des absences et sur certains trucs, Paris aurait pu leur faire payer. Mais voilà, s'il arrive à en faire un 8, comme au final, Ancelotti avait fait Di Maria un 8 quand ils
En
gagnent la Ligue des
2014.
Champions à leur tour. Voilà, je me dis qu'il y a peut-être une évolution intéressante à ce niveau-là à suivre, comment va faire Rames. Après, bon, c'est peut-être aussi temporaire parce que le Bayern doit récupérer aussi Thiago Alcantara qui est blessé pour quelques
Oui,
mois, je crois.
après les récupérations de Sagol Alcantara sont aussi temporaires. Hein.
Oui, mais il y a Müller-Wohlfahrt qui est
Non,
arrivé,
mais,
donc voilà.
ce qui est fort aussi, c'est que le Bayern réalise ses performances-là sans Boateng. On oublierait presque. Et sans Neuer. C'est-à-dire que tu vas récupérer deux joueurs qui vont défensivement encore te faire passer un palier.
Ulreich qui a été très bon hein, contre Paris d'ailleurs, dernier en
mais bon,
passant.
après, je pense que tu peux
Oui, c'est sûr que
difficilement
tu auras une progression, c'est
faire
certain.
aussi bien. Et puis Boateng qui va aussi apporter dans la relance. Et quand tu auras Boateng et Hummels. Et que tu devras presser les deux en même temps, bah forcément ça ouvrira des espaces dans le dos de la première, du premier rideau. Et à partir de là, quand tu as Tolisso, Rudy, Vidal, Alcantara, James, ça crée beaucoup de problèmes. C'est cet effectif qui est stable, qui bouge par retouche, mais qui garde toujours ses hommes clés. Et c'est toujours aussi impressionnant quand ça tourne.
Bon, ça marche. On va tourner la page. Encore une paire de questions sur Paris ou autre, mais vu qu'on en parle assez régulièrement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On va élargir un petit peu bilan global. Est-ce que vous voulez, je sais pas, parler par exemple spécifiquement de Monaco ou alors est-ce qu'on fait un bilan général des groupes? Raphaël, je te laisse le dernier mot là-dessus.
Je pense que parler de Monaco maintenant, ça mettrait une mauvaise ambiance dans le podcast.
Deux salles, deux ambiances, on va
Ouais, c'est
arrêter.
ça, deux salles, deux ambiances, ouais. Non, mais après, je trouve que cette année, au moins, il y a eu un peu de nouveauté, j'ai l'impression, dans les poules et dans les qualifiés. Et surtout dans l'ordre des qualifiés. Quand tu vois Tottenham finir premier, quand tu vois Beşiktaş finir premier avec 14 points, tu vois le Shakhtar faire une excellente phase de poule. Bon, Liverpool qui est de retour en Ligue des Champions,
La
qui a eu
Roma
un peu.
aussi, la Roma qui
Voilà,
sort
la Roma,
devant Chelsea et
devant
l'Atlético.
Chelsea. Ouais, l'Atlético qui sort pour la première fois depuis que Simeone est là, je crois, en phase de poule. Bon, Liverpool a eu un groupe très facile pour pouvoir sortir, et malgré tout, ils ont parfois été en difficulté. Bon, ils marquent quand même 23 buts. Bon, il n'y a que le Barça, finalement, qui a été dans la droite lignée de ces années précédentes, mais sinon, il y a beaucoup de nouveautés, je trouve. Et toujours ce FC Bâle qui sort toujours une année sur deux en huitième de finale. Et la phase de poule de Benfica, qui est assez légendaire, quand même,
Ouais,
0
le
point,
zéro
1
pointé.
but marqué, 14 contre. Une performance à la Benevento. Non, je sais pas, faudrait que Flo choisisse parce que là, je trouve qu'il y a énormément de points intéressants dans cette phase de poule. Pour une fois, il y a eu de l'inédit, quoi.
Bah Florent, du coup, on
Ouais.
t'écoute. De quoi t'as envie de parler, dis-nous.
Ouais, ça va être dur d'enchaîner. Après, quand on regarde la qualité de jeu, je vais me concentrer sur les matchs qu'on a pu voir ou apercevoir. Et c'est vrai qu'en termes de qualité de jeu, je pense que le groupe de City a été celui qui a atteint
Le
le
plus haut
meilleur
niveau.
niveau, en tout cas avec des matchs les plus équilibrés, quoi.
Même
Même
s'il
si...
y a eu des sacrés matchs dans le groupe Roma, Chelsea, Atlético aussi,
Ouais,
il y a
c'est
eu
vrai.
des belles performances, pas forcément des deux équipes en même temps, mais il y a eu des démonstrations. Chelsea contre Atlético a été très bon, la Roma avec le but de Dzeko incroyable à Stamford Bridge, il y a eu des moments aussi impressionnants.
Ouais, mais c'est vrai que oui, enfin après on va retenir forcément que les matchs qu'on a vus, mais la double confrontation entre City et Naples était très agréable. Alors je l'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais des images que j'en ai vues, le Shakhtar-Naples aussi
Ouais,
de la
très
toute
bien.
première journée était très bien, et le Shakhtar a l'air d'être une équipe
Allez,
qui très intéressante à voir en tout
les
cas.
sorties de balles du Shakhtar, je
Ouais,
conseille à tous ceux qui sont
ils ont.
intéressés justement par le fait de ressortir le ballon proprement. C'est toujours travailler, c'est réciter. Et que ce soit contre City, bon, c'était le City faible là du match retour, mais contre Napoli, c'était à chaque fois très. C'était appris par cœur en fait. Tous les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire.
Ouais,
C'est
c'était très bien répété,
remarquable.
ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ce groupe-là. Après, je renvoie les gens qui nous écoutent, s'ils l'ont pas déjà fait, au podcast qu'on avait fait après le premier City Naples, où on avait fait 1 heure là-dessus, donc ils en sauront plus à ce niveau. Après, c'est vrai que quand tu regardes les 8 qualifiés, enfin les 16 qualifiés et les deux chapeaux, au final, enfin, c'est assez équilibré. T'as
Ouais,
Manchester
complètement.
United, Paris, Rome, Barça, Liverpool, Man City, Beşiktaş, Tottenham d'un côté. Et Bâle, Bayern, Chelsea, Juve, Séville, Shakhtar, Porto, Real de l'autre. Alors il y a peut-être un petit surplus côté gauche, du côté des premiers, mais parce que à l'heure actuelle, le Real ou le Bayern ou la Juve sont des équipes un peu convalescentes. Mais voilà, il y a quand même un certain équilibre à mon avis qui se sentira peut-être plus en février en fait. Enfin, je veux dire le déséquilibre,
Ouais.
voilà. Mais après, c'est vrai que pour revenir, il y a une équipe qui est marrante, qui a été marrante à voir sur toute la phase de poule, c'est Liverpool. Marrante
C'est
dans le
marrant.
sens spectaculaire, quoi.
Ouais.
Tous les matchs, soit ils ont mis une volée, soit c'était un scénario un peu foufou, hein, le 3-0 qui finit en 3-3 à Séville, par exemple.
C'était très Ligue Europa de Lyon 2016-2017
Ouais, c'est ça. Et
comme performance.
justement, en tant que premier de poule, je me dis que Liverpool. Alors, je dis pas qu'ils vont. En fait, ma grande question, c'est est-ce qu'ils sont capables de rendre les matchs aussi fous s'ils tombent contre du Bayern ou de la Juve ou du Real en huitième, en fait? Est-ce qu'ils sont capables d'amener le même degré de folie dans ces matchs-là? Offensivement, j'entends, parce qu'après, je ne doute pas
Ah,
du fait qu'ils
défensivement,
prendront des buts.
il y aura de la folie.
Voilà.
Il y aura des Yann Lovren, donc il y aura de la
Voilà.
folie.
Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que offensivement ils seront capables d'emballer autant ce genre de match-là? Alors, leur résultat en première ligue face aux gros me rend assez pessimiste là-dessus, parce que s'ils ont mis une volée à Arsenal, sur tous les autres matchs, ils se sont fait éteindre ou ils ont perdu, il me semble.
Alors après, c'est vraiment spécifique à cette saison, parce que depuis que Klopp est là, il y a toujours eu dans les contre les gros, soit des matchs fous que Liverpool a dominé, soit des petites victoires grâce à un but en contre-attaque. Cette année, je pense que le City aurait pu démarrer comme ça, et puis il y a eu le carton rouge
Ouais,
arraché
c'est
de
vrai.
Mané là,
Ça a
qui
mis fin
coûte
au
la
match,
veuve.
ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut qu'il retrouve un peu cette compétence dans les gros matchs, bon, de toute façon qui est sa spécialité depuis le début de sa carrière, où il a toujours écrasé les gros jusqu'à ce que les gros le prennent ses joueurs comme Bayern avec Dortmund.
Et après, à l'inverse de Liverpool, en termes d'équipe, toujours une équipe anglaise, mais qui fait des jouets. Alors, je pourrais citer le United, mais c'est vrai que Tottenham s'est fait un vrai plaisir sur cette phase de poule, hein. Ils ont dominé le Real. Au match retour, même si Lloris fait quelques gros arrêts sur ce match-là et à l'aller aussi. Mais bon, ça compte, hein, un gardien performant. Mais en fait, Tottenham, c'est un petit peu l'anti-Liverpool dans le sens où là où on va plus les attendre, c'est leur capacité à faire déjouer justement l'adversaire. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresserait de les voir face à. Alors, ils pourront pas reprendre le Real évidemment, mais face au Bayern ou à la Juve, enfin des équipes qui ont fait des grosses performances sur les dernières années en Ligue des Champions. J'aimerais bien les revoir, ou alors, bah, à défaut, les voir passer en quart et
Ouais, parce
les
que
voir prendre Barcelone ou Paris, ou voilà.
c'est vrai qu'on connaît Pochettino pour son attachement au jeu de possession et au jeu de position, même parce qu'il est très préparé et très structuré. Mais dans un groupe où il y a le Real et le Dortmund, ne prendre que 4 buts
Ouais, c'est
en 6
fort,
matchs,
très fort.
c'est fort.
Après, Tottenham je crois, sur les dernières années, une des meilleures défenses de Première Ligue, donc
Ouais, ouais,
c'est un
ouais.
peu le
S'ils sont
prolongement.
blessés.
Pour une fois, il a réussi à prolonger ce qu'il fait en Première Ligue en Coupe d'Europe, chose qu'il n'avait pas réussi à faire jusque-là.
Et comme beaucoup de défenses qui marchent en Coupe d'Europe, c'est une charnière qui joue ensemble depuis plusieurs années. Quand tu regardes tous les vainqueurs de Ligue des Champions depuis pas mal de temps, enfin, c'est rarement les charnières qui ont été construites un an avant ou 6 mois avant.
Et si, Raphaël, si je te dis, bon, Tottenham est quasiment hors course en Première Ligue. Ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un truc de journaliste bateau? Parce qu'au final, tu fais jamais complètement l'impasse sur une compétition. Et c'est pas parce que tu fais l'impasse sur l'une que tes performances explosent sur l'autre. Ou est-ce que tu penses quand même que le fait que Tottenham soit quand même pas un habitué des grandes performances en compétition européenne et que le titre soit déjà hors de portée, ça peut quand même faire que le fait de prioriser la Ligue des Champions peut leur permettre d'aller, pourquoi pas, je sais pas, en demi par exemple?
Après février, c'est compliqué pour les clubs anglais parce qu'il y a la trêve qui n'existe pas en Angleterre. Tu as les matchs de coupe qui arrivent début janvier. Tu peux te manger des replays si tu fais match nul. Et tu enchaînes sur la Ligue des Champions en février. Donc si Tottenham a en plus du chemin à rattraper en première ligue, ils joueront la Ligue des Champions à fond. Mais tu peux avoir un. Ça dépend à quel point Pochettino va faire tourner son effectif en fait. Parce que si tu regardes, les coachs ont. Selon les performances, ont tendance à plus faire tourner. Non, tu vois. Genre Emery, là, ça marchait tellement bien qu'il a fait tourner sur Strasbourg, ça a moins bien marché et il s'est remis à l'équipe titulaire et du coup tu te retrouves dans une autre dynamique. Mais là, sur ces matchs-là, je pense que Tottenham sera très intéressant parce que Pochettino, tactiquement, ne néglige aucune rencontre. Alors après, tu as la qualité individuelle qui peut faire défaut, mais je pense que ce sera une équipe au moins performante sur ce plan collectif. Après, ce que je trouve, quand tu vois des équipes comme ça, qui sont des équipes second couteau mais qui ont de la qualité et qui ont un bon coach, de voir des Dortmund ou des Leipzig sortir aussi vite et sans forcément passer très près de la qualification, même si Leipzig, si Monaco avait fait le boulot, aurait peut-être eu la chance de sortir Porto. C'est un peu dommage, tu vois, la phase de poule de Séville aussi, elle est moyenne. La phase de poule de Chelsea est pas folle. Il y a beaucoup d'équipes. Après, c'est Bâle qui est intéressant, mais il y a beaucoup de second couteau cette année qui passe limite. Alors, il y a le Shakhtar qui est bien, mais Mais c'est vrai que Tottenham est la satisfaction de tous ces seconds couteaux parce qu'ils ont dominé des adversaires qui étaient au moins à leur niveau.
Il y a Com qui nous demande comment la LDC a pu provoquer une telle descente aux enfers pour Dortmund. Florent, je pense que c'est difficile de répondre et c'est difficile d'incriminer forcément la Ligue des Champions. Je pense que c'est quand même un tout. C'est vrai que la dernière
Ouais.
fois qu'on a parlé de Dortmund, tout allait bien. Là, ils
Ah, il y
sont
avait.
vraiment dans la spirale où, en gros, chaque occasion
Oui.
de l'adversaire, il y a but.
Il y avait
Eux,
eu
ils perdent
le.
un
Le.
blessé à chaque match. Enfin, c'est très compliqué, quoi.
Il y avait.
Plus
Il y avait.
Bosch qui est.
Il y
Voilà.
avait le match aller contre le Real où ils avaient été quand même particulièrement naïfs sur le plan de jeu. Enfin, je pense
Ouais,
que ça en fait partie
ils
aussi.
étaient allés les chercher, ils étaient allés les chercher très haut et le Real
Ouais, à la médiane.
avait un peu galéré les 2-3 minutes et puis ils ont compris, je crois que ça part sur un Isco qui dézone ou un truc comme ça et qui est dispo et derrière ça part en profondeur et derrière c'est fini quoi. En gros ils avaient mis, le Real avait dû mettre 5-6 minutes à comprendre comment fallait jouer offensivement face à cette équipe et finalement, vu que Dortmund avait conservé toujours la même manière, la même manière, la même manière de faire, et ben, le Real, ben, ils ont vite trouvé la solution.
Et ça
Après.
avait exposé des joueurs faibles dans ce contexte-là, comme Weigl ou Bartra, qui sont pas faits pour défendre sur 60 mètres en reculant.
Ouais. Mais c'est vrai que Dortmund, alors je sais pas ce qui a provoqué quoi, mais peut-être que le match face au Real a aussi. Et l'évidence de la manière de jouer des Madrilènes, la réponse apportée par la Madrilène a peut-être aussi inspiré des clubs en Bundesliga. Après, j'extrapole un peu parce que j'ai pas non plus vu récemment des matchs de Dortmund. Mais après, voilà, il y a des choses aussi qui doivent se jouer sur le plan mental parce que quand tu vois l'évolution du score sur le Dortmund-Schalke qui se retrouve où tu te retrouves à 4-0 en 30 minutes, je crois, et puis ça finit à 4-4. Le pire, c'est qu'en regardant le match. Parce que j'avais pris le match en cours et je crois qu'il y avait déjà 3-0 et j'avais toujours un œil dessus parce que c'était en plein après-midi et puis il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Et en fait, même à 3-0, tu n'avais aucun sentiment de solidité en fait dans cette équipe. Alors tu te disais évidemment pas, bon, ils vont se faire remonter, tu vas voir, mais tu te disais, bon, ben.
C'était le cas de l'Ajax la saison dernière aussi, hein, quand tu vois, ils font un parcours un peu similaire à celui de Lyon. Et d'ailleurs, la double confrontation face à Lyon, la fin de match de l'Ajax, c'est catastrophique.
Ouais, à Lyon, ouais, quand ça finit à 3-1, je crois, à Lyon.
Non, mais il n'y a aucune gestion ni des émotions, ni du tempo. C'est pour ça que je dis naïf, et je trouve que c'est aussi bien tactiquement que émotionnellement. Ils sont dans un rythme où il n'y a pas. Enfin, c'est pas forcément, ça va être un peu cynique, mais il n'y a aucun calcul dans leur façon de jouer, t'as l'impression parfois. Et c'était le cas avec Bosch à l'Ajax, c'est le cas aujourd'hui à Dortmund, et c'était un peu le cas aussi quand il était au Vitesse Arnhem, quand tu lis les supporters de l'époque ou les mecs qui les suivaient, c'est qu'il y a une idée de jeu très claire, mais par contre, un peu le vice que demande le football parfois, ou le côté calculateur, il n'existe pas du tout.
Ouais, et puis si t'es une équipe de pressing, effectivement, ok, tu cours, etc., pour récupérer le ballon, mais quand tu l'as, il faut savoir quand même poser le tempo. Sinon, si tu pars dans les matchs end-to-end où ça va d'un but à l'autre, bah,
Ouais,
ça
ça
peut
devient.
être profitable s'il y a 0-0, un partout ou autre. Mais si tu mènes, t'as besoin de savoir faire autre chose, surtout que t'as les joueurs pour, des Weigl,
Ouais,
etc., sont plutôt là pour poser le
et
tempo.
puis quelques mois après le jeu de position très très structuré de Tuchel, ça fait un peu mal de voir ça.
Et puis le end-to-end, ça rend le match plus aléatoire qu'autre chose en fait,
Bah ouais, bah on l'a vu
surtout à ce
avec Lyon l'an
niveau.
dernier.
Et plus dépendant des qualités individuelles.
Oui, on l'a, bah, par exemple, le end-to-end, ouais, on l'a vu l'an dernier. Je pense que tu allais citer Lyon.
Ouais, c'est
Tous
ça.
les matchs end-to-end, ils ont basculé de leur côté parce que c'est leur talent offensif qui ont fait les différences, etc., etc. Et à un moment donné, pour revenir rapidement et finir là-dessus, sur Bayern PSG, il y a une période en début de deuxième mi-temps. Où ça commence à partir sur du end-to-end entre la 50e et jusqu'au but de Tolisso à peu près, où tu sens que les blocs commencent à s'étirer, que les structures. Enfin, c'est moins en place, les joueurs ont plus de mal à se replacer, etc. Donc ça commence à partir un peu dans tous les sens. Et c'est le seul moment où tu te dis, là, Paris peut revenir à
Ah
2-2,
bah
parce
Neymar
qu'avec le
et
talent,
Mbappé,
voilà, Mbappé a son occasion avec le tir de l'entrée de la surface, là. Et en plus, le corner qui suit, là aussi, l'occasion dans les 6 mètres. Mais voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que Paris aussi,
ouais.
sur ce point-là, avec Cavani, Neymar et Mbappé, s'est armé aussi pour ce genre de match, parce que ça peut arriver en Ligue des Champions, un match qui s'emballe, machin, qui part dans tous les sens. C'est déjà arrivé en Coupe d'Europe. Et là, Paris, cette année, aura de quoi répondre à ce niveau, parce qu'au talent, ils ont des trois finisseurs de grande qualité, quoi.
Raphaël, je pensais que tu avais quelque chose à
Non,
ajouter.
mais non, mais je me demandais, parce que Flo a répondu à ma réflexion en concluant sa phrase. C'était, il disait que Paris était avantagé dans ces contextes-là. Mais je me demande s'il y a vraiment tant de contextes que ça en Ligue des Champions où les matchs sont complètement incontrôlés par les deux équipes. Tu vois,
Bah,
j'ai.
t'auras Liverpool,
Oui,
si
non, bien sûr.
Liverpool s'en
Ça
sort.
quand tu. Quand tu as évoqué l'idée, Flo, j'ai pensé au Bayern Juve d'il y a quelques années, là, Allegri Guardiola.
Ouais, c'est vrai.
Bon, en fin de match, c'était bordelique
Mais
et le Bayern
c'est
passe grâce à
plus,
ça, mais.
c'est-à-dire t'auras jamais un match sur 90 minutes, mais c'est des périodes quoi. Des fois t'as des
Ouais.
périodes de 10-15 minutes où t'as où voilà où ça flotte un peu des deux côtés et mais c'est ce qui s'est passé face au
Après,
Bayern et c'est là que ça peut basculer quoi.
j'ai l'impression que c'est un peu plus le cas en Ligue Europa.
Ouais, beaucoup plus. Bah, on a
Peut-être
vu
que
l'année dernière avec la campagne de Lyon,
Ouais.
avec le Beşiktaş aussi.
Où les équipes se
Voilà.
connaissent moins, peut-être il y avait Liverpool l'année d'avant, ou contre Dortmund, ils remontent 3 buts en 25 minutes. J'ai l'impression que quand c'est des gens dans les contextes où les équipes se connaissent un peu moins, où les coachs ont moins de certitudes sur l'un et l'autre et ne savent pas forcément ce que va faire l'autre. Parce que maintenant, je pense que les 10-15 meilleurs coachs en Europe, ils sont capables de se lire entre eux avant les matchs et de savoir ce qu'ils vont faire, parce que tout le monde a des préférences. Et là, c'est. Bon, alors après, tu peux tomber sur des équipes qui sont moins prévisible, ou si toi être moins prévisible et créer ce contexte-là, mais j'ai l'impression que toujours les meilleures équipes en Ligue des Champions sont capables de contrôler justement ces matchs-là et d'éviter la folie de l'aléatoire.
Il y a Monsieur Lee qui nous dit Naples, un groupe trop limité pour jouer le Scudetto et la Ligue des Champions. Raphaël, je pense qu'il y a en plus, comme Leipzig, de manière un petit peu différente, mais c'est quand même des équipes qui courent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts à chaque fois. Donc c'est
Ce qui
sûr
fait.
qu'en plus, si tu fais pas trop tourner, bah, ça peut vite, au-delà du banc qui peut être limité, ça peut vite, tirer sur les organismes.
Ce qui fait mal depuis quelques semaines, c'est surtout la blessure de Goulam, qui était un homme clé du jeu offensif du Napoli, parce que c'était le triangle Hamšík-Hinšík-Goulam qui était à la création du jeu de Naples, parce que de l'autre côté, c'était Caïron qui attendait au deuxième poteau pour marquer, et tu as perdu un élément essentiel de cette construction-là. Et en plus, tu as Sarri qui pète un peu les plombs dans toutes ses déclarations en ce moment. Où tu sens que le gars est un peu tendu. Bon, un journaliste lui a demandé, je sais plus, un journaliste lui pose je sais plus quelle question et il répond, ah d'accord, bah, je viendrai te demander si je veux une question de merde ou un truc comme ça. C'était très sympathique et il est un peu sur la. Il est un peu à cran en ce moment et j'ai l'impression que le Napoli, il est un peu le fait d'avoir perdu la première place là, avec l'Inter qui a gagné son match et de sortir en Ligue des Champions par une défaite contre le Feyenoord. Bon, même si ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le Shakhtar a gagné de son côté. Mais c'est vrai que c'est un passage à vide là pour le Napoli. Et il faut espérer que, alors que la Juve se remet en forme, il faut espérer que ça dure pas trop longtemps. Alors là, la trêve peut arriver au bon moment d'ailleurs. Parce que lâcher 3-4 points là d'ici quelques semaines, ça mettrait déjà de la distance entre des équipes qui sont pour l'instant sur une meilleure trajectoire que toi. Mais c'est vrai que l'effectif est très court en dehors du milieu de terrain. Où ils ont pas mal de solutions, et d'ailleurs l'équipe B, Zielinski, Rogue, Diawara, il y a de la qualité. Sur tous les autres postes, quand tu as la deuxième option, tu chutes de niveau assez drastiquement.
Et Florent, là pour l'instant, la solution pour remplacer Goulam côté gauche, alors il y en a deux, c'est soit de mettre Issage côté gauche et de mettre le
Maggio.
fantôme de
Ouais.
Maggio à droite, enfin le fantôme Maggio version 2017, donc c'est un
Cadavre.
petit peu compliqué, voilà le cadavre, soit de mettre Mario Rui à gauche, ce qui était notamment le
Qui a
cas face à
priori
la
est pas du
Juve.
tout concluant
Voilà, qui est un joueur qui peut, je pense, quand même jouer en Serie A ou autre, mais pas à Naples, pas avec Jorginho, Alan Hamsik devant lui, quoi.
Non, c'est vrai que la perte de Goulam pèse beaucoup. D'ailleurs, c'est face à City hein, qui se blesse.
Ouais,
Et
ouais.
sur le match en question, ça change énormément de choses au match. Parce que Naples avait fait une très bonne entame au match retour. Et il se blesse à la 20, 22, 23e minute, je crois. D'ailleurs, il reste 2 minutes sur le terrain alors qu'il s'est fait les croiser. C'est voilà, un peu dur au mal, hein, dur au mal. Mais non, c'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que c'est un joueur qui complétait vraiment, tant techniquement mais aussi dans les déplacements, le travail de Hamšík et Insigne. Donc c'est un joueur très très intelligent et très important pour la bonne animation de leur côté gauche. Donc c'est sûr que le perdre, il faut à la fois retrouver un joueur aussi bon techniquement, mais si tu mets Issai à gauche qui est bon techniquement, mais qui va pas être sur son meilleur pied, bah, il va pas t'apporter les mêmes choses que Goulam. Du coup, ça change les déplacements et ça change la complémentarité.
Et il sache que déjà offensivement n'est déjà pas le pendant
Non, oui,
de
même à
Goulam. Parce que
droite, en
souvent,
effet.
quand Naples construit, il reste plus bas, un peu, parfois pour former une défense à 3
Ouais, il est pas,
avec
il a
Koulibaly et Albiol.
un bon pied droit pour donner des ballons en profondeur, notamment. Mais c'est
Ouais,
vrai que
mais
c'est un,
dans ses courses, c'est moins fort.
voilà, c'est moins fort et ça en fait tout simplement beaucoup moins aussi. Et après, au-delà de ce cas précis et de cette blessure, il y a aussi la priorité qui a été donnée a priori à Sarri par De Laurentiis, et c'est la Serie A. C'est-à-dire le fait de jouer avec Diawara, Zielinski, le match aller face à City, et même, je crois, le match face au Shakhtar, le premier match qu'ils perdent et qui, au final, fait leur élimination. C'est aussi un choix parce que la priorité de Naples aujourd'hui c'était et c'est toujours le championnat et c'est de gagner quelque chose en Italie et de préférence le Scudetto évidemment parce que la Coupe d'Italie c'est très différent aussi, hein. C'est pas vu que de la même façon là-bas. Donc voilà, parce que bon, en effet, c'est pour ça que le choix c'est un choix un peu bizarre parce que je pense que Diawara, Zielinski, en effet pour la Serie A, ça aurait pu tout à fait faire le pli et tu fais souffler Hamšík et Jorginho, puisque ce sont leurs deux remplaçants, tu les fais souffler le week-end et tu les mets en Ligue des Champions. Bon, bah, c'est le choix inverse qui a été fait. Bah, Naples l'a payé et c'est un peu dommage parce que la suite pour eux en Ligue Europa, Naples pourrait être un candidat, enfin, et un candidat déclaré à la victoire, mais est-ce qu'ils vont vouloir la jouer? C'est pas non
Il y a
plus
aussi le
garanti.
fait que l'histoire du Napoli est beaucoup plus liée à la Serie A qu'à la Coupe d'Europe.
Ouais.
À l'inverse de l'AC Milan, par exemple, où la Coupe d'Europe est une vraie obsession et pas forcément le championnat à chaque fois. Le Napoli, c'est le Napoli de Maradona, c'est les titres de champion des années 80. C'est cette époque-là dorée qu'ils veulent retrouver. Et la Coupe d'Europe, pour eux, était une conséquence positive de leur nouvelle qualité en championnat. Mais ça a jamais été une priorité. Et même lorsque Mazzarri était là, il y avait une bonne campagne où en poule ils avaient failli, d'ailleurs après ils avaient failli sortir le Chelsea de Villas-Boas qui s'était fait virer entre les deux matchs. Mais si tu remarques, leur parcours en Coupe d'Europe sont jamais pour être priorisés comme tu l'as dit. Et sont bah d'ailleurs tu vois il suffit de voir le nombre de supporters qui étaient présents au stade lors des matchs de Napoli en Coupe d'Europe pour te rendre compte qu'il n'y a pas du tout la même effervescence que lors des samedis et des dimanches de championnat.
Ouais, c'est quand même une déception de ne pas voir cette équipe en huitième parce que finalement on se dit que les deux plus beaux matchs c'était l'aller et le retour contre City et que le perdant qui aurait très bien pu prendre des points sur au moins l'un des deux matchs va se retrouver en Ligue Europa. En plus dans une Ligue Europa qui sont vraiment pas sûrs de, j'allais dire de gagner, mais même ils sont même pas sûrs d'aller en demi ou en quart parce que le niveau avec tous les reversés, l'Atlético, etc. va être très très élevé en
Après
comparaison du premier pool de base qui était, je trouve, assez faible là sur les phases de poule.
le
Là, ça va
Shakhtar et
devenir très très solide.
le Shakhtar ne se qualifie pas non plus n'importe comment.
Non, on en a
Ouais,
parlé tout à
non, mais
l'heure.
l'un n'empêche pas l'autre. Hein, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui,
C'est
non, mais
aussi
je
les
pense
soucis du
que.
tirage ou dans d'autres groupes. T'as Bâle et CSKA où tu te dis, bon, peut-être que c'est moins relevé. Enfin voilà, c'est
Tu vois,
pas
parmi les
toujours cette
deuxièmes de
variable.
poule, parmi les deuxièmes de poule qui sont pas des gros clubs, donc si tu prends Séville, Porto, Bâle. Et tu rajoutes Shakhtar, je pense que je préfère prendre n'importe qui que le Shakhtar qu'on a vu en phase de poule. Parce qu'ils ont une qualité à la fois pour ressortir et pour presser qui peut très bien embêter une équipe qui essaye de construire. Alors après, tu as d'autres équipes, Porto, qui peut être embêtant, mais je pense qu'ils iront chercher moins radicalement que ne l'a fait le Shakhtar sur certains matchs, qui a quand même réussi à rivaliser avec City, avec le Napoli, c'était pas donné à tout le monde.
Il y a quelques bons joueurs, même si forcément on les connaît un petit peu moins ici. Mais les Tyson, les Fred, surtout
Ah,
Bernard, là,
Bernard
franchement,
Fred
c'est
aussi. Et Fred
Fred,
au
ouais,
milieu,
peut-être que
c'est
c'est
très
lui.
très fort, hein, Fred au milieu. Mais je pense qu'on l'avait déjà vu en sélection il y a quelques temps quand même.
Oui, c'est pas
Non,
lui qui avait été contrôlé positif. Il y avait un Fred, il me semble. Non, mais je rigole pas, hein. Je crois
mais
qu'il
peut-être. Mais en tout cas, c'est. Bah écoute, ça s'explique. C'est pas vraiment, ça fait très très bon.
D'ailleurs, en parlant de contrôle positif, petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu, Guerrero a été suspendu pour 1 an.
Ah, bon
Donc
bah. Ça va être sympa le Pérou. Hein.
On n'aura pas de Guerrero contre la France avec le Pérou.
Très bien,
Quel dommage.
il vit une saco un peu.
C'est ça, à part
Sauf
que.
qu'il est coupable.
Voilà. Encore des choses à dire sur la Ligue des Champions. Bon, il y a des clubs dont on n'a pas parlé, mais c'est.
Bah, on va.
Enfin,
On
t'as Manchester qui passe. Enfin, United, non pas City, qui passe en
on attendra le
marchant.
tirage
Mais on
pour en
pourrait parler
reparler.
de la sortie par la petite porte de l'Atlético quand même. Parce que c'est un club qui. était devenu essentiel en Ligue des Champions depuis 3-4 ans.
Avec 5 buts en 6 matchs, alors que tu as Karabakh dans la poule, même si Karabakh
Ouais.
n'était pas la victime, j'allais dire annoncée, pas forcément, parce que c'est quand même une bonne équipe depuis quelques années. Je me souviens qu'ils avaient failli sortir l'Inter, je crois,
Ouais, bah ils font deux matchs
en
nuls.
Ligue Europa à l'époque, en phase de poule. Ils avaient aussi failli terminer devant les Ukrainiens de Dniepro qui avaient fait finale ensuite. Donc ça reste une bonne équipe, mais bon, quand même, t'es l'Atlético, tu dois pouvoir les battre.
Façon, Karabakh prend 2 points, et c'est des 2 points contre l'Atlético. C'est ces deux matchs-là qui
Après,
te foutent bonne, parce que sinon tu fais 2 victoires, t'es à 11 points, et t'es à égalité avec la Roma et Chelsea.
ces deux matchs-là, j'ai plus les chiffres en tête, mais l'Atlético a un manque de réalisme hallucinant.
Ouais.
Parce que je crois qu'en termes d'expected goals, sur ces deux matchs-là, ils finissent à 2,8 et le Karabakh est à 0,2 ou 0,1, et puis finalement, ça fait un partout à la fin.
Mais c'est embêtant parce que tu es quand même censé être une équipe relativement réaliste.
Ouais.
La construction de l'équipe se fait aussi là-dessus, sur le fait de pas non plus avoir 1 milliard d'occasions.
Ils ont eu
Et
la
puisque
mauvaise
ça
passe
se tique pas trop.
ils ont eu la mauvaise passe des attaquants et de Griezmann au pire moment de la saison, si tu veux aller loin en Ligue des Champions.
C'est ça.
Ouais,
Et
bien
là,
sûr.
j'ai retrouvé pendant qu'on en parlait les deux maps. Au match aller en Azerbaïdjan. Attends, c'est Azerbaïdjan, Karabakh? Oui. Je sais même plus.
Absolument.
Il me semble.
Oui, puisqu'en plus,
L'Atlético, bon, c'est pas énorme.
sponsor de l'Atlético.
Ouais, c'est pas énorme, mais ça finit à 1,5 et Karabakh à 0,4. Et puis avec une, deux, trois, quatre grosses occasions, a priori, vu les petits points là sur la map que j'ai sous les yeux. Et le match retour, c'est encore plus monstrueux. Ça fait un partout et c'est 2,5 à 0,1
Ouais,
sur le match.
c'est limite le 0,1 qui est plus énervant que le
Ouais,
2,5.
avec Karabakh qui marque sur son seul tir dans la surface de réparation de l'Atlético. Donc voilà, c'est sûr qu'ils ont eu un problème de réalisme. Et je crois que c'est un problème aussi qu'on voit sur, je sais plus quel match, mais un des matchs face à Chelsea et la Roma où ils n'ont pas été payés non plus. Où c'était un petit peu d'ailleurs le contraire de la Liga, où en Liga ils sont réputés pour être très efficaces et faire beaucoup avec très peu. Et c'est ce qu'ils font cette année aussi, même s'ils sont quand même bien en retrait du Barça, voire de Valence même, qui est deuxième aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils ont eu ce problème de réalisme en Coupe d'Europe, et puis ça leur coûte cher. Après, voilà, là, aujourd'hui, parce qu'on va basculer sur la Ligue Europa, donc je me charge de la transition. Aujourd'hui, par contre, il se pose comme le grand favori pour la Ligue Europa, quoi. Je vois
Ouais.
aucune équipe sur une confrontation aller-retour qui est capable de les taper s'ils jouent évidemment la compétition à fond, ce qui reste une question aujourd'hui.
Je lisais une étude intéressante récemment, c'était sur le fait de changer de stade à domicile, de changer d'enceinte. Et il disait que justement, dans les 2-3 premières années du changement, tu as toujours une baisse de performance à domicile. Alors, je sais, il n'expliquait pas précisément, mais il y avait des pistes, les repères visuels, la routine, le rituel. Et quand tu regardes les performances à domicile de l'Atlético, il y a une seule victoire contre la Roma. Sinon, il y a un match nul contre Karabakh, une défaite contre Chelsea. Donc tu peux aussi, et je pense qu'en championnat aussi, ça leur a coûté un peu plus cher, mais il y a aussi ce problème de, et c'est intéressant, l'avantage à domicile, pourquoi les équipes gagnent plus à domicile. Et justement, il y avait aussi cette piste-là de tu changes de stade et tu es moins performant tout de suite. C'est vraiment un sujet hyper intéressant. Là, on s'éloigne du terrain et de la tactique, mais c'est vraiment. Je trouve que c'est les trucs comme ça, les idées qui sont idées reçues en fait, mais qui sont valables dans le foot, sont toujours intéressantes à explorer.
Là, j'en profite pour donner les troisièmes de groupe, donc ils seront reversés en Europa League. Dortmund et Leipzig, Naples, Spartak Moscou, Sporting, Atlético, Celtic Glasgow et CSKA Moscou. Ce qui est quand même, donc, par rapport à certaines autres années, tu as deux, trois très grosses équipes. Si tu prends Naples, Atlético, Borussia, c'est quand même vraiment pas mal.
Après, si je peux, voilà, je vous emmerde encore plus avec le truc des matchs à domicile. L'Atlético est 9e de la Liga à domicile. Bon, ils ont fait que 6 matchs et les autres 7. Mais ils ont 3 victoires, 3 nuls. Alors qu'à l'extérieur, ils sont à 5 victoires et 3 nuls en 8 matchs. Donc voilà, c'est pour te montrer que c'était pas juste en Ligue des Champions. Et que là aussi, le fait de changer ça est bien économiquement. Mais qu'au début, sportivement, ça peut te coûter des points.
Ouais.
Bien
Après,
sûr.
pour tempérer là-dessus, avec les travaux derrière chez moi là, les trois nuls à domicile, enfin sur les trois nuls qu'ils font, t'as quand même Barcelone, le Real et Villarreal. Donc
Oui.
voilà,
Après, ils
c'est
avaient
important
tendance à en
quand
gagner au moins un des deux
même. Oui,
Barça
c'est
et
vrai.
Real à
Mais
domicile.
voilà, pour tempérer une nouvelle fois, après le match face au Real, c'était une vraie catastrophe à regarder, c'était très compliqué.
Vrai que c'était ignoble.
Mais enfin, tout ça pour revenir que malgré ça, je pense que l'Atlético est sans rival a priori sur le plateau. Là, j'ai les 16 équipes, enfin les 32 équipes sous les yeux. C'est difficile de par l'expérience qu'ils ont acquise en Ligue des Champions. Il n'y a personne, enfin même avec ce problème entre guillemets du nouveau stade. J'ai du mal à les imaginer passer à côté s'ils jouent encore une fois la compétition à fond, s'ils en font un objectif. D'autant plus qu'en janvier, ils vont se renforcer. Avec un joueur qui est capable de marquer sur une
Ouais.
demi-occasion avec trois mecs sur le dos, c'est Diego Costa. Et j'ai vu une vidéo de lui qui est en pleine prépa physique et je pense pas qu'il va rentrer avec des kilos en trop. Je pense qu'il va être assez affûté quand il va revenir. Et je me demande aussi si Vitolo les rejoint en janvier
Ouais,
aussi.
bah
après,
il est
de
Vitolo est
Las Palmas.
blessé et
Ouais.
reste sur une première partie de saison
Assez
catastrophique
moyenne,
avec
ouais.
Las Palmas de ce que j'ai vu. Mais sur le papier, c'est un vrai bon joueur hein, qui était titulaire en sélection espagnole il y a 8 mois, 1 an. Donc on est sur un vrai joueur. Après, est-ce qu'il va revenir ou alors est-ce que le fait de Las Palmas de jouer dans une équipe assez faible, ça lui a un peu coupé les jambes, on verra. Mais c'est vrai que ça fait deux recrues, une devant, une au milieu.
Après, le plateau de Ligue Europa est quand même joli. Hein. Quand tu vois les reversés de la Ligue des Champions, c'est un peu comme les années précédentes, mais c'est vraiment sympathique de voir du Dortmund, du Leipzig, du Napoli, du Spartak Moscou. Je pense qu'on va faire du Spartak Moscou un peu moins, mais il y a quand même des bons joueurs. Mais en tout cas, en termes de nom, en termes de club et d'histoire en Coupe d'Europe, tu as des très belles équipes.
Sachant que sur donc, ce qui était déjà la Ligue Europa, les équipes qui sont là depuis le début, les représentants des grands championnats sont encore là. C'est-à-dire que Espagne, Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, tout ça s'est qualifié. Italie, Atalanta, Lazio, Milan. Voilà, t'as pas de. Tu vois, là, je regarde les éliminés. Tu as Hoffenheim, où tu peux dire c'est un petit peu une déception, mais. Bon, finalement, est-ce que cette équipe-là a été taillée pour aller loin? Je sais pas. Everton pour le championnat anglais, mais qui est complètement à la rue.
Après,
Et
t'as, en
pareil,
plus,
Cologne en Allemagne complètement à la rue.
t'as les bonnes équipes de l'Est, c'est-à-dire le Lokomotiv Moscou, t'as le Dynamo Kiev qui est là, après un peu plus
Le
à l'Ouest,
Zénith
t'as.
qui a explosé tout le
Oui,
monde sur la
qui
tour de
a explosé
Toulouse.
tout le monde, en même temps qui a fait un recrutement pour son championnat très élevé. Après, t'as un peu plus à l'Ouest, t'as le Victoria Plzeň qui est là, t'as Arsenal qui est là, Salzbourg, qui est d'ailleurs la confrontation Salzbourg-Leipzig. Risque de poser problème, bon, au moins moralement, même si les mecs n'ont plus le même nom, donc officiellement ils ont le droit de s'affronter. La Real Sociedad qui joue bien, non, t'as franchement un beau plateau, encore une fois, la Ligue Europa. Après, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de tirage au sort, ou qu'ils fassent s'affronter deux très gros, et qui ensuite fassent baisser le niveau lors des huitièmes de finale, ce qui arrive assez souvent en Europa League, malheureusement.
C'est vrai que si t'as Östersund qui tombe contre le Croatia Zagreb ou des choses comme ça, bon,
Et
je sais
puis
pas si c'est possible, mais c'est vrai que ça peut.
t'as la EK Athènes qui se qualifie avec 5 matchs nuls en 6 journées.
Ouais.
C'est très grec.
Tu sais de quoi tu parles, Raphaël Kosmidis.
Ouais, non, mais franchement, une belle phase de poule. Ils ont gagné le premier match et après, ils ont pu gagner un seul match. Mais
Ouais,
bon,
ils
ça
sont quand
passe.
même passés.
Ça conserve le score. Un petit mot sur les clubs français. Florent, je te sens bien chaud sur Marseille.
Ah, ouais.
Parce que. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu es dépité de la qualification, mais en tout cas enfin, de
Les
ce que j'en ai
performances.
compris de nos discussions, tu n'es pas forcément fan de leur performance.
Bah de ce qu'ils ont
Et
proposé,
surtout
ouais.
vu le niveau du groupe, ouais, c'est surtout ça.
Bah c'est ça, il me semble qu'il n'y a, y a que des victoires par un but d'écart, je crois. J'ai plus tous les scores en tête là, mais je crois que c'est ça. Donc déjà, ça, c'est. Dans un groupe aussi faible, c'est quand même assez dommage, mais après donc il y a en effet une défaite à Salzbourg, mais voilà, ce qui est marrant c'est que ce sont les deux derniers matchs où Marseille à Konya donc face à Konya Sport doit perdre ce match. Ils sont menés 1-0, ils n'ont pas montré grand-chose de plus que le fait que ce soit logique qu'ils perdent, enfin c'est logique qu'ils perdent 1-0 à ce moment-là du match. Et puis il y a un miracle, c'est une mésentente entre le gardien qui juge mal un ballon, enfin Ndjé, enfin c'est pas un miracle, Ndjé va le chercher quoi, il joue l'action jusqu'au bout, etc. à la dernière seconde de la dernière minute, etc. Mais voilà, c'est un CSC de Moquet, je crois, le défenseur de Marseille, de Konyaspor. qui leur permet de repasser devant voilà, à la dernière minute. Alors que sinon, Marseille allait aborder la dernière journée avec le besoin de gagner absolument face à Salzbourg. Et là, c'était pas non plus une garantie. Et même sur le match d'hier, alors bon, au final, ça ne serait pas passé comme ça parce que Konyaspor encaisse l'égalisation en fin de match. Parce que du coup, le concept, c'était que Konyaspor devait gagner à Guimarães pendant que Marseille devait perdre face à Salzbourg. Face à un Salzbourg déjà qualifié. Et Marseille a failli perdre ce match. Dans les dernières minutes, il y a eu un débordement, je sais plus, alors là par contre à Salzbourg, je vais pas retrouver les noms, mais un débordement côté droit avec un centre, et c'est Bounassar qui fait un très bon match par contre, a priori en position de latéral droit hier, il paraît-il, mais parce que j'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu les 30 dernières minutes, et c'est Bounassar qui vient et qui tacle et qui sauve Mandanda a priori, parce que sinon le mec arrivait, c'était un centre au sol, il arrivait lancé sur son pied droit. Enfin, Mandanda n'était pas dans les meilleures dispositions pour faire l'arrêt, quoi. Et c'est vrai que la campagne de l'OM, voilà, c'est 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 8 points pris, une défaite à Salzbourg qui n'était pas difficilement contestable.
Après, Garcia, je crois, a jamais aligné sa meilleure équipe
Non, non, c'est vrai.
Sur
Marseille
les
a
matchs de
fait.
poule, donc maintenant qu'ils sont à 16e et selon le tirage.
Marseille a fait en effet beaucoup tourner et il a profité en effet de la faiblesse du groupe pour faire tourner et c'est passé avec la
Ça passe
réussite
les
en
cracks,
Turquie,
hein.
ça
Mais
passe les cracks, mais ça passe quoi.
je pense que le pari, c'était justement de mettre toutes tes forces en championnat parce que tu avais besoin de remonter. Et là,
Oui.
l'Europa League, si ça passe, tant mieux, c'est passé. Maintenant, ils vont pouvoir mettre la grosse équipe.
Ouais, c'est sûr que si on s'en tient au résultat,
Sixième.
le pari est
Ouais, mais après, je
totalement
pense que
réussi.
c'était ça avec les performances, c'était pas forcément le point clé de cette phase de poule.
Après, ce qui peut être intéressant, bon, Nice est passé, mais je crois qu'on a vu aucun match. Enfin, moi, j'ai vu aucun match de Nice en Coupe d'Europe. Lyon est passé, bon, ils finissent deuxième. Mais ce qui peut être intéressant, c'est face à quelles équipes on aimerait retrouver ces trois-là. Alors, sachant que.
Parce que c'est le bordel avec les reversés, les premiers, les
Non, non, je
deuxièmes.
les ai
Enfin,
déjà, les
tu les as,
chapeaux, je les ai.
alors dis-nous, Florent.
Donc je peux tout vous dire sur les donc les 16 équipes que peuvent affronter donc Nice, Lyon et Marseille. Donc tu as Villarreal, Milan AC, Arsenal, Salzbourg, la Lazio, le CSKA Moscou, l'Atlético Madrid, Leipzig, le Sporting Portugal, le Dynamo Kiev, le Sporting Braga, l'Atalanta Bergame, donc évidemment pas pour Lyon, hein, voilà.
Ouais.
Le Victoria Plzeň, l'Athletic Bilbao et le Zénith.
Les trois peuvent très bien sortir en même temps.
Oui. Tout dépend du tirage, mais c'est vrai qu'il y a quand
Il
même pas mal de
n'y a pas de
gros.
cadeau, hein.
Il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Alors, a priori, mais c'est plus parce que moi, on les connaît pas, mais le Victoria Plzeň apparaît comme une équipe parmi les équipes les plus faibles.
Christophe t'en dira du bien, et surtout de leurs résultats
Bah,
en
disons,
championnat.
ils ont, je crois, 14 victoires, un nul en championnat, et terminé premier de leur groupe. Alors, ça fait pas deux des terrains, hein, faut relativiser par rapport au niveau du championnat tchèque. Mais disons, pour une équipe tchèque, c'est peut-être l'une des équipes venues de ce pays-là les plus fortes de ces dernières années, quoi.
Ils
Donc
avaient
ça
fait
reste un
un.
tirage plus embêtant que l'Astra, Giurgiu ou à l'époque ou autre, qui étaient déjà des petits pièges.
Ils avaient fait un petit parcours il y a quelques années, plus ou moins en.
En Ligue des Champions, ils avaient.
Je sais pas si c'était Ligue des Champions ou Coupe de l'UEFA à l'époque, mais je crois qu'ils avaient passé des tours. Et enfin, c'est la seule équipe tchèque qui fait parler d'elle depuis quelques années.
Après,
Avec
alors de mémoire,
Lech Poznan, parfois, je crois qu'il est
non,
passé quelques
Pologne,
fois, non?
Poznan,
Ah, c'est
c'est la
Pologne. Ah,
Pologne.
bah tu vois, tu vois comme quoi je me trompe.
Après, t'as Braga qui semble peut-être un peu en retrait aussi. Et après, dans les, enfin, pour avoir vu Bilbao, il n'y a aucune équipe française qui a à rougir par rapport à ce que fait Bilbao pour les avoir vus récemment. Même si au final ils accrochent le Real, mais ça reste une équipe assez prenable pour un club français. Après, il y a toujours cette inconnue des clubs de l'Est. Mais c'est sûr que si tu prends par rapport à. Et puis, même le niveau du Milan AC aujourd'hui, franchement, je suis Lyon ou Marseille ou Nice, j'ai pas forcément peur du Milan AC au niveau où ils jouent à l'heure actuelle. Hein. Hier, ça perd 2-0 contre
Ah,
IEK. Après, en février, ça sera peut-être différent. Mais c'est vrai que quand tu prends Zénith, Atalanta, puisqu'au final, Atalanta était quand même assez convaincant face à Lyon, le Sporting, Leipzig, l'Atlético.
Villarreal.
Le CSKA, la Lazio, Arsenal et Villarreal, t'as déjà 9 équipes, donc plus de la moitié du chapeau, où en effet c'est pas cadeau, quoi. Voilà.
Alors que voilà. Donc Florent a coupé le son, où là c'était compliqué, on a l'impression qu'il se brossait les dents avec une brosse à dents électrique géante. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, Florent parlait de Bilbao, c'est vrai que Bilbao fait vraiment pas une bonne saison. Sur le papier, tu dis si quand même ça se remet à fonctionner, là, le
Sur
championnat
deux
pour eux
matchs.
c'est mort, ils sont plus dans l'optique maintien ou autre. Sur deux matchs, quand tu as Iñaki Williams qui va faire des débordements, que tu
Adoris qui va
auras
mettre une tête au
Adoriz à la
moins.
réception des centres, avec Raúl García aussi qui viendra mettre sa tête. Plus, alors je crois que Mounien est souvent blessé, je sais pas s'il serait apte pour ce match-là ou pas. Mais je veux dire, sur le papier, finalement, l'équipe de Bilbao est pas forcément beaucoup
Non,
moins
mais
forte que l'équipe d'il y a 2-3 ans
en
qui avait
fait,
déjà sorti Marseille de
ouais,
mémoire.
c'est ça. Il y a aucune équipe où tu te dis, ah oh, bon, c'est bon, tu vois, c'est ouf. Où tu t'essuies la goutte de sueur sur ta tempe et tu te dis, bon, c'est bon, on a évité le pire. Parce que même Pilsen, quand tu regardes leur résultat, tu te dis, bon, bah, attends, c'est une équipe, on connaît pas grand-chose d'eux, ils sont à 14 victoires. C'est qu'au moins, ça doit être très cohérent tactiquement. Tu t'enchaînes pas à 14 victoires et un match nul sans être cohérent, au moins mis au point tactiquement.
Bah, de toute façon, soit tu connais et tu sais que c'est fort, soit tu connais pas, mais tu t'en doutes, parce que même là, tu regardes Braga, bon, déjà, ils ont déjà fait de demi-finale de la compétition il y a quelques années, mais là, en championnat, ils sont juste, tu vois, ils sont à 2 points de Benfica, à 5 points du Sporting, ils sont quatrième, ils ont terminé premier de leur groupe. Tu te dis que c'est, enfin, leur résultat atteste d'une certaine force, et puis traditionnellement, c'est toujours une équipe où la moitié de l'effectif, c'est des Brésiliens de second rang que tu connais pas, mais qui sont quand même très capables de t'embêter, parce que c'est quand même des bons joueurs, quoi.
Ah, mais c'est là que le tirage va être clé parce que tu vas forcément, enfin, huitième de finale va forcément y avoir des équipes plus faibles qui vont pouvoir passer parce qu'il y a des gros qui vont s'affronter. Si t'es sur un Lyon Atlético ou un Lyon Milan, un Lyon Arsenal, si t'es sur un Marseille Villarreal, il y aura d'autres équipes qui seront contentes que ça s'affronte et derrière ça fera de la place à des équipes plus petites, des Östersund, des Copenhague, des équipes qui sont pas forcément aussi bien dotées que leurs adversaires potentiels. Donc je suis curieux de voir comment ça va se finir parce que souvent la Ligue Europa, tu fais le plateau en 16e, tu dis waouh, c'est impressionnant. En 8e, d'un coup, tu fais ah, on en a perdu quelques-uns et ça redevient en quart très fort. Donc, et c'est une compétition très, très intéressante justement parce qu'il y a de l'inédit, parce qu'il y a des confrontations qu'on a rarement et des équipes qu'on découvre. Bah, le Bilbao de Bielsa, c'était grâce à la Ligue Europa que pas mal de gens l'avaient vu jouer. Parce que les gens ne regardaient pas forcément tous les matchs de Liga et surtout ceux de Bilbao. Donc chaque année, il y a des révélations comme ça et je suis curieux par exemple de voir le Zénith où j'ai regardé un de leurs matchs cette saison parce qu'il y a énormément de joueurs que là-bas j'aime bien, Imamana, Paredes. Et là, quand tu vois leur campagne de pas leur phase de poule. S'ils ont un bon tirage ou même s'ils affrontent un gros, je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Pour appuyer ce que tu disais, là je regardais le tirage des 16e l'an dernier. Tu avais quand même un Villarreal-Rolm qui sort
Ouais, c'est ça,
Villarreal
ouais.
qui pouvait être une des meilleures équipes encore en lice. Fiorentina-Gladbach qui sort la Fiorentina. Et tac tac tac, Krasnodar-Fenerbahçe, peut-être un peu plus en second rideau, mais quand même tu perds Fenerbahçe et Celta-Shakhtar où tu perds le Shakhtar. Donc ça, et puis ensuite derrière t'enchaînes sur les huitièmes de finale où t'as donc Rome-Lyon, ça sort Rome, et Schalke-Gladbach où tu perds Gladbach. Donc au final tu te retrouves en quart de finale, où je veux pas dire qu'il y a des équipes en bois, hein, parce que je veux dire, Beşiktaş on voit cette année en Ligue des Champions qu'avec un effectif
Ah,
pas
c'est une
tellement renouvelé, c'est pas mal,
belle cohésion, beau
mais bon
collectif.
t'as Genk, t'as Anderlecht, bon c'est même l'Ajax qui fait finale finalement, c'était pas, tu
Bah,
vois, même
il y
l'Ajax
avait
de l'an
plus
dernier qui
fort
fait
sur le
finale,
plateau.
tu Bah, tu le mets cette année avec les équipes encore en lice. Je suis pas persuadé que la moitié des tirages voient l'Ajax de l'an dernier se qualifier.
Ouais, non,
Mais
non.
voilà, si tu as le bon parcours, tu vois, il s'était tapé Copenhague. Bon, Schalke, c'était pas mal cette qualification-là, mais comme Lyon, il l'avait surtout validé après un bon match aller. Et puis je crois qu'il se qualifie en prolongation avec un joueur de moins. Enfin, c'était un petit peu ric-rac, mais on voit que ça peut assez vite tourner si t'as le destin. Après, c'est vrai que bon, plus t'as de gros adversaires encore en lice, au plus il faudra vraiment de la chance pour passer entre les gouttes.
Non, mais de toute façon, on verra ça avec le tirage lundi, en espérant qu'il y ait au moins un des trois clubs français qui puisse passer, parce que perdre les trois en même temps, ce serait dommage. Surtout que Nice, la Ligue Europa, pour l'instant, pour eux, c'est un peu une soupape de décompression quand tu vois leur performance en championnat. Que Lyon, cette année, a l'air quand même plus cohérent, collectivement et tactiquement, et donc tu peux espérer qu'ils fassent un parcours similaire, mais avec un peu plus de mérite et moins de hasard. Et puis il y a Marseille qui, avec son équipe titulaire, quand même, a les moyens de faire des choses dans cette Ligue Europa. Je vois bien cette compétition, tu vois, donner l'opportunité à Mitroglou de marquer quelques buts. C'est une compétition qu'il a l'habitude de disputer. C'est le genre de double confrontation où son profil peut faire mal. Donc voilà, espérons que lundi, il y ait des bonnes choses pour les clubs français.
C'est vrai que Mitroglou, c'est historiquement un vrai bon buteur. C'est vrai que ça me fait toujours. J'ai dit ça parce que ça me fait toujours un petit peu chier, mais c'est pas que en France. T'as les suiveurs du championnat anglais qui, en gros, dès que les joueurs bident un petit peu, et encore Mitroglou, l'échantillon est relativement réduit, mais dès que certains joueurs sont très mauvais dans un championnat, bah, les observateurs de ce championnat-là vont te catégoriser un mec comme disant,
Je
ouais, il est
pense
nul.
que Mitroglou, le fait que ce soit un grand baraqué, tu vois, alors qui est un peu désarticulé, t'as tendance à annoncer le bid beaucoup plus rapidement. Parce
Oui.
qu'il n'a pas la dégaine d'un footballeur dont tu ne doutes pas de la qualité. Tu vois, même si Mbappé, il marque, je sais pas, un but en 3 mois, visuellement, il est tellement impressionnant qu'il faut avoir faut être fou pour annoncer que le mec n'a pas de talent. Alors que Mitroglou, c'est le syndrome, alors je vais forcer, mais c'est le syndrome Brandao. C'est que physiquement, il renvoie pas une image de footballeur talentueux. Alors que si, il l'est, il a un talent que d'autres joueurs ont et qui n'est pas forcément très large, mais qui en tout cas dans une équipe qui tourne, va marquer des buts. Mais tu vois, je pense que l'impression visuelle est hyper importante sur ces joueurs-là.
Bah, Mitroglou, c'est le Spartiate de 300, mais qui n'a pas du tout passé le cut, quoi. C'était le premier
Ouais, c'est ça, ouais.
à être dégagé parce qu'il avait pas le physique. Mais tu vois, je pense à ça, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais je vois souvent notamment des suiveurs du championnat anglais, parce que j'en suis pas mal sur Twitter. À chaque fois que Iago Aspas fait des bons trucs, ils vont dire, putain, la Liga est vraiment mauvaise pour que Iago Aspas réussisse.
En même temps, le passage de Iago Aspas à Liverpool, je peux te le dire, était quand même
Ben
légendairement
voilà, avec le
raté.
corner où il tape
Oui,
dans
c'est
le
ça.
poteau de corner. Enfin, t'as quand même le truc, c'est un gag, mais n'empêche pas moins que le mec, enfin, il fait des super saisons en Espagne, il joue en sélection. Enfin, tu vois, donc ça me. Petit coup de gueule. Alors après, si ça se trouve, Mitroglou va complètement se planter, peut-être que ses meilleures années sont derrière lui, etc. Mais tu peux pas tout remettre en cause définitivement la qualité d'un joueur parce qu'il n'est pas forcément bon pendant quelques mois chez toi, parce qu'il y a d'autres paramètres aussi. Mitroglou a quand même quelques saisons à 15-20 buts derrière lui qui font que tu peux pas non plus dire.
Après, c'est aussi la culture talk show où, vu que chaque semaine tu dois avoir un avis tranché, tu peux pas avoir le même avis chaque semaine pendant 2 ans et demi. Donc, tu es obligé à un moment
C'est vrai que
de
si pendant 2 ans tu dis
faire
non, mais
autre
vous
chose.
allez voir, les gars
C'est
étaient
ça,
bons à
ouais.
Benfica.
Ça, tu vois, c'est ça aussi le problème. Généralement, tu miser sur le long terme dans un talk show, dans un débat d'opinion, c'est rarement la bonne chose. Alors que si tu dis oh, t'as vu ces matchs, il est nul, t'es plus souvent écouté et applaudi pour ça que pour dire non, vous verrez, dans 6 mois, j'aurai raison. Parce que personne ne se souvient qu'il y a 6 mois plus tôt, tu as dit ça. Donc, c'est aussi ça qui fait partie de cette culture, je pense.
Sachant qu'en plus, ça n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien dire que le mec est nul actuellement, mais c'est. Tu vois, ce qui est toujours un peu embêtant, c'est les
Ouais.
extrapolations. Genre, Mitroglou est définitivement nul, ne sera jamais bon. Faut s'en
Ouais, bah,
séparer, vive Valère Germain. Ouais.
c'est le débat sous-côté, sur-côté, qui a lieu sur chaque joueur qui surperforme ou sous-performe, ou pas d'ailleurs, ou performe juste à sa juste valeur, sauf qu'on ne le savait pas.
En
Mais
sachant que toi, tu es
c'est.
très clairement surcoté, Raphaël.
Complètement, je suis complètement surcoté. Après, je pense que voilà, Mitroglou, par exemple, moi, je sais qu'il marque des buts, pourtant, je suis pas fan du profil
Ah
et du
oui, l'un
type de
n'empêche pas
joueur,
l'autre, oui.
parce que ça symbolise tellement bien le football grec, fait de force et de lenteur avant d'autres choses. Voilà, pour moi, ça me repousse un peu parce que j'ai envie que la Grèce s'écarte de ça. Mais bon, là,
C'est Charistéas sans l'Euro 2004.
bah, c'est un peu ça. Et puis, avec une coupe de cheveux problématique,
Ouais, c'est comme Gueycas, hein. Les
quand
attaquants grecs, il y a toujours eu des problèmes de coupe de cheveux.
même. Bah, apparemment, c'est toute la nation, tous les gens qui viennent de Grèce ont des problèmes capillaires.
Sachant que tu ne fais rien pour changer la
Ah
statistique.
non, je suis pas du tout l'exception qui confirme la règle.
Bon, on va se quitter. Je pense que Florent était happé par les travaux dans sa
Ouais,
rue.
Si,
je pense
si,
qu'il
c'est
est
bon,
safe.
c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça
Ah,
s'est
c'est bon.
calmé. Ouais, je me suis
Bon, je
échappé,
t'emmène
la
à la
brosse
rue,
à
du
dent
coup, Florent.
géante est partie. Non, je vous entends. Je vous entends parler de Mitroglou, c'était très intéressant. Voilà.
D'accord, merci
Voilà.
Florent.
Après
Mitroglou,
Mitroglou,
race.
il y a aussi un truc. Raphaël parlait de l'impression. Je pense aussi au-delà de l'impression, tu parlais de l'impression physique. Je pense qu'il y a beaucoup trop de blagues à faire sur le prénom, sur le nom Mitroglou, ou qui fait que ça rend les choses.
Hey.
Il n'est pas pris, voilà, il est pas pris au sérieux non plus.
Je sais
Une
pas si
partie
c'est ta meilleure
de
analyse, mais
ta. Ouais, non, mais.
ta... tu nous feras une palette sur les prénoms et noms de
Ouais,
joueurs.
c'est ça. Mais non, mais au-delà de ça, après, juste pour revenir sur son cas, ce qui est quand même intéressant avec ce qu'il fait, c'est qu'il a toujours deux ou trois grosses occasions par match, là. Pour l'instant, il les met pas. Mais sur les matchs que j'ai vus, à chaque fois, il a une ou deux occasions et malheureusement, il a peut-être pas encore la vivacité qu'un finisseur doit avoir pour tu sais, mettre le pied avant que le défenseur puisse venir contrer, etc. Peut-être que c'est sur ça aujourd'hui qu'il doit progresser pour pouvoir recommencer à marquer, quoi.
Avec Thauvin, Payet, Sanson et les bons centres d'Amavi, il n'y a aucun doute qu'il va marquer sa minimum sa dizaine de buts d'ici la fin de la saison.
Bon, bah on verra ça. Ça fait bizarre de commencer sur Bayern.
Et de finir sur Mitroglou. Ouais.
Sur Mitroglou, mais c'est le charme du foot.
On avait fait de l'équipe de France à Junior Tallot un jour, je pense qu'on pourra pas faire pire.
En plus, on aurait pu faire Junior Tallot là, parce qu'il fait partie de l'effectif de Guimarães, même s'il a pas joué contre Marseille. Il a joué 3-4 matchs de championnat. Donc, Junior Mentalo, si tu nous
écoutes,
c'est pour toi. Bon, merci messieurs.
Merci à toi Christophe d'avoir été si bon.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On verra de quoi on parle. Peut-être refaire un petit point sur le tirage, ou alors on attendra un petit peu.
Il y a un petit derby aussi ce
février,
week-end.
Et puis on passera au championnat domestique. Oui Florent.
Non, il y a un petit derby ce week-end aussi, City United.
Absolument.
Il me semble.
Je pense qu'on sera tous devant, donc c'est vrai que ça peut être l'occasion. En plus, Guardiola Mourinho, c'est toujours intéressant à plus d'un titre.
Un petit City United
match,
et puis
une petite histoire.
Et puis les tirages au sort après, ouais. Je pense que ça fait un bon thème pour la semaine prochaine.
Voilà, bah merci pour ce teasing Florent, merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Au revoir.
Cordialement.